RMC After Espagne.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, votre podcast audio et vidéo 100% consacré au club espagnol que vous retrouvez aussi sur YouTube, bien sûr, sur notre chaîne After Foot TV, toutes les box SFR Free Orange, vous téléconnectez sur l'appli RMC BFM Play, merci. Il y a de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter,
à liker.
Un million sur l'épisode précédent, il faut le dire. Tu confirmes ?
Mais bien sûr, évidemment.
Bon,
c'est incroyable.
Un petit peu moins quand même.
Un tout petit peu.
Mais on progresse.
Voilà.
On avance grâce à vous. Likez, mettez des étoiles, des pouces dans tous les sens, des smileys. On prend tout avec Rémi Dumont. Salut Rémi.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Comment va également notre correspondant permanent en Espagne? Edgar Grelot est avec nous. Salut,
salut messieurs. Je pense qu'on n'est pas loin quand même du million, non? On s'en rapproche.
Si
les clubs espagnols commencent à mieux jouer.
Ce serait pas mal qu'ils fassent aussi leur part du boulot. Nous, on essaie de le faire toutes les semaines. Alors, épisode consacré cette semaine à l'Atlético de Madrid. Troisième de Liga, place traditionnelle, mais avec désormais dans ses rangs un ballon d'or africain. Ademola Lookman, peut-il changer les Colchoneros? Il vient d'arriver, ça a déjà très bien commencé, on va en parler. Début foudroyant avec sa nouvelle équipe. Le Nigérian peut-il aussi s'affirmer enfin à 29 ans, 28 ans, comme un crack mondial, et que peut espérer l'Atlético dans cette deuxième partie de saison? Bien sûr, on va en parler ensemble. Vous écoutez l'After Espagne, c'est parti.
After Espagne.
Alors, ses débuts, les gars, explosifs. C'était ce jeudi en quart de finale de la Coupe du Roi contre le Real Betis Balompié. Victoire 5-0 sur le terrain du Betis, à la Cartuja. Lookman,
oui.
C'est un carnage. Lookman, à peine arrivé titulaire, il a mis le feu, Rémi.
Ah bah, si nous, on est proche des millions, lui, il est proche des 35 millions. C'est le prix qu'il a coûté à l'Atlético de Madrid pour signer. Il a joué 79 minutes. Il a eu le temps de marquer un but, d'offrir une passe décisive et de frapper 5 fois au but. Ce qui montre bien qu'il s'est très vite acclimaté. Et puis, il a très vite, on va dire, montré de quoi il était capable.
Et surtout, une complicité naturelle. On en parlait avant.
Il s'est fondu dans le jeu, ouais.
De toute façon, il est là depuis 3 saisons, Edgar. Comment t'as observé et comment tu juges son match, sa prestation, ses 80 minutes sur le terrain?
Exactement, on avait l'impression qu'il avait compris déjà un petit peu les consignes, compris la philosophie de jeu. Déjà dans l'apport défensif, il a fait énormément d'efforts. On l'a vu contrer des frappes de balle devant la surface de réparation, remonter le ballon de loin. En tout cas, vraiment se plier aux exigences collectives sur le plan défensif. Et puis offensivement, il était très présent dans le jeu, je trouve. Il décrochait aussi énormément beaucoup. Et quand on connaît ses qualités, sa qualité de dribble, ça a forcé les défenseurs à le coller de près pour pas qu'il puisse prendre de vitesse, et donc ça a ouvert énormément d'espace pour ses coéquipiers, et ça c'est le genre de choses qu'on voyait pas assez ces dernières semaines à l'Atlético. Donc non, c'est très très encourageant, et surtout dans la participation au jeu et dans la confiance que lui accordent ses coéquipiers dès ses premières minutes, parce qu'on voyait des joueurs qui cherchaient énormément Lookman dès qu'ils pouvaient un petit peu être dans sa zone.
Regardez ce qu'a dit de lui Diego Simeone, son nouveau coach, juste après la qualif pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Les mots sont assez forts. Hein. Lookman est différent de tous les joueurs que nous avons, surtout dans les situations de 1 contre 1. Mais il possède aussi un bon jeu collectif. Son profil nous permet de l'utiliser à plusieurs postes. Son impact sur l'équipe a été très positif. Il s'est senti à l'aise et nous espérons pouvoir l'aider à devenir un joueur encore meilleur, tout comme il peut nous aider à progresser en tant qu'équipe. C'est dire déjà la confiance qu'a Simeone en Ademola Lookman. On va raconter un petit peu son début de saison avec l'Atalanta. Pas bon, il ne jouait plus, il a fini par rejouer. C'est un homme qui depuis 2 ans voulait quitter Bergame.
Depuis son triplé en finale d'Europa League, forcément il avait marqué les esprits. Il était courtisé notamment par le PSG à l'époque.
Par le PSG notamment, des clubs anglais aussi, espagnols. On lui a fait la promesse qu'il allait pouvoir partir. Il a vécu comme une trahison, notamment sur le mercato dernier, l'été dernier.
En même temps, les promesses dans le monde du foot.
Oui, mais bon, c'était le dernier à ne pas pouvoir bouger de l'Atalanta.
C'est vrai.
Et surtout après le départ de Gasperini, dont il était très proche. Enfin, il a trouvé un club à sa mesure. Peut-il le faire grandir? Bien sûr, on va en débattre. On parlait avec Eric Schell, son sélectionneur du Nigeria, qui nous a dit qu'il était hyper content de voir son joueur rejoindre l'Atlético, parce qu'il nous a dit mot pour mot, il va beaucoup courir avec Simeone. Et ça me plaît énormément. Tu l'as déjà vu beaucoup donner hier, Edgar, ce jeudi?
Oui, honnêtement, oui. Et je pense que ce qui est intéressant surtout avec ces efforts-là, comme l'a dit Diego Simeone, c'est un joueur, je pense, qui va pouvoir jouer à plusieurs postes. Hier, il était dans une doublette offensive et donc un petit peu plus dans l'axe. Mais je pense qu'il y a d'autres moments où il sera beaucoup plus dans l'aile, ou en tout cas, c'est un joueur qui va pouvoir vraiment dézonner et vraiment avoir une certaine liberté. Et en fait, défensivement, ça compte aussi beaucoup, parce que ça veut dire que tu peux lui demander différentes choses, parce que t'es un petit peu moins fixé sur il doit être dans telle zone du terrain dès qu'il récupère le ballon ou dès qu'on récupère le ballon. Et en tout cas, au niveau des efforts, il a vraiment été exemplaire hier, et aussi au niveau des choix et du côté collectif, parce que je pense que dans le cliché de l'idée qu'on peut avoir de Lookman, des fois on pense au dribbleur, mais c'est aussi un bon joueur pour ses coéquipiers, qu'on a pu le voir hier, ou en tout cas il en a la capacité, et notamment sa passe décisive pour Griezmann, c'est un exemple de travail collectif où tu attends, tu fixes ton défenseur, tu passes, et ça permet vraiment de mettre ton coéquipier dans les meilleures dispositions pour marquer. Et ça, je suis sûr que Simeone a dû l'apprécier, au-delà aussi de son travail défensif et des kilomètres parcourus.
Je vais citer un coach cher à Rémi, c'est De Zerbi qui disait la semaine dernière, après le mercato d'hiver marseillais, sur ce nouveau turnover, cette nouvelle vague de recrues à Marseille: quand vous avez un très bon joueur, il n'y a pas de problème d'adaptation, ça va extrêmement vite. Lookman, oui. C'est un peu ça, on va voir ça maintenant.
En fait, moi, si tu veux, le truc, c'est toujours pareil. C'est quand t'as un premier match.
Je suis un peu sceptique, quoi, sur Lookman.
Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est un premier match. Donc, généralement, c'est là aussi que tu vois le tempérament d'un joueur. C'est-à-dire que sur un premier match, en plus, à l'extérieur, en coupe, c'est différent d'un match à domicile, en championnat, ouais, avec l'attente des supporters. Là, on va dire qu'il était un peu éloigné de la pression. Après, ce que j'ai bien aimé, pour le coup, durant ce match, c'est qu'il a souvent été cherché en une touche de balle. Et il a très bien su lire les trajectoires des ballons. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre déjà, comme le disait Edgar, le feeling qu'il a avec ses partenaires. Après, faudra voir comment ça dure sur la durée, parce que là, pour l'instant, entre guillemets, personne ne le connaît en Liga, entre guillemets, hein, mais faut voir comment il va réussir à s'adapter justement au jeu, et puis à la combinaison que demande Diego Simeone, parce que courir sur un match, ça va, courir sur toute une saison,
t'as raison,
c'est différent.
Soit sur un premier match, tu veux tellement montrer ton talent tout de suite que
ce qui est logique,
t'es un peu sur un nuage. Est-ce que vous considérez qu'il est sous-coté, Lookman, sur la scène européenne, ou pas? Ou est-ce que finalement sa trajectoire, c'est pas un gamin, on l'a dit, hein,
il est né, ans, hein.
Voilà, c'est ça, il a 28 ans, il va avoir 29 ans cette année, en 2026. Est-ce que il a perdu du temps? Mais est-ce que quelque part il mérite de l'avoir perdu ce temps-là? Est-ce que sa trajectoire raconte aussi le talent qu'il a, Edgar?
Je ne sais pas s'il est sous-coté. Je pense que c'est surtout maintenant qu'il doit prouver ou non quel joueur il est. Voilà. Je pense que quand tu as un ballon d'or africain, c'est difficile de dire que tu es sous-coté, parce que ça veut dire quand même que ta valeur a été.
Ta valeur en Afrique, Edgar, oui, elle est reconnue. Mais en Europe, c'est ça la question.
Oui, mais il l'a eu pour ses performances en Europe avec l'Atalanta, et notamment ce triplé en finale de la Ligue Europa. Je pense que son souci, c'est que les gens regardent pas l'Atalanta toute l'année. Donc tout le monde a vu son talent en finale de la Ligue Europa notamment. Mais je pense que maintenant, il va vraiment avoir l'opportunité de montrer ce qu'il vaut. Et c'est maintenant qu'on va un petit peu pouvoir le classer parmi les top attaquants d'Europe, ou un petit peu en dessous. Enfin, on va voir. Et non, je dirais pas qu'il est sous-coté ni sur-coté. Je dirais que c'est sa chance, et que c'est maintenant, et surtout dès les premières semaines, qu'il va falloir la saisir pour montrer quel genre de joueur il est.
Qu'est-ce qu'on dit en Espagne après sa première, notamment Edgar, là?
Ah, ils sont ravis, et surtout ils étaient ravis même au moment où il a signé, parce que c'est le genre de profil qui manque à cet Atlético là. Les supporters de l'Atlético sont très très contents de voir ce genre de joueur arriver, comme de voir le genre de joueur qu'est Mendoza, on en parlera, arriver, parce que ce sont le genre de profil qui manque à cette équipe. Et donc les gens sont très contents de voir quand même une star, hein, malgré tout, même s'il avait jamais joué dans un très 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 grand club, ça reste une vraie star, Lookman. Et donc les gens attendaient beaucoup de lui, et ont été satisfaits de cette première où il a été globalement plutôt monstrueux, mais à l'image de son équipe. J'ai pas envie de le mettre au-dessus du reste de l'équipe. L'Atlético a fait une superbe performance, et surtout, et on en parlait d'ailleurs lundi dans les Drôles de Dames, l'un des gros problèmes de l'Atlético, c'est de pouvoir mettre ce deuxième but, ce troisième but, de tuer ces matchs quand ils mènent, parce qu'ils mènent souvent, mais ils ont du mal à distancer leurs adversaires, et là ils l'ont fait. Alors est-ce que c'est l'effet Lookman, comme le dit évidemment une partie de la presse, parce qu'on a envie de s'enthousiasmer pour cette arrivée? Est-ce que c'est l'effet Lookman, ou est-ce que c'est quelque chose de collectif? On verra, mais en tout cas, il pouvait difficilement imaginer mieux.
C'est une star qui arrive à l'Atlético. C'est une troisième star, si on peut le résumer ainsi. Royan Alvarez, Antoine Griezmann. Griezmann a marqué, tu l'as dit aussi, Edgar. Je pense qu'il peut se régaler, Griezmann, avec ce joueur Ademola Lookman. Mais parmi ces trois stars, il y en a une qui coince complètement, Rémi. Qu'est-ce qui se passe, Julian Alvarez?
Alors,
il y a 4-5 mois, on a fait un podcast. Au lendemain, on a triplé.
On disait que c'était le nouvel attaquant.
Une remontada, un triplé, but sur coup franc, la panoplie de Julian Alvarez. Depuis, c'est quoi les stats?
Alors, sur le papier, franchement, les stats, elles sont plutôt honorables, puisque c'est 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues avec l'Atlético de Madrid, pour 11 buts, 5 passes décisives. C'est le quatrième joueur le plus utilisé par Diego Simeone cette saison à l'Atlético. Mais, Edgar le soulignait, il n'a plus marqué depuis un certain temps, n'est-ce pas, Edgar?
Oui, exactement. Et depuis cette semaine-là, absolument exceptionnelle, où il a mis aussi un doublé face au Real Madrid, il n'a pas marqué dans le jeu. Pas un seul but dans le jeu en Liga. Hein. Je parle en Liga, il a marqué en Ligue des Champions, mais en Liga, pas un seul but dans le jeu depuis septembre. Il a plus marqué depuis novembre en plus, même quand tu comptes les pénaltys, il a plus marqué depuis le 1er novembre en Liga. Et en 2026, 0 but, 0 passe D en 8 matchs. Et surtout, on a l'impression, au-delà de ça, hein, qu'il disparaît dans le jeu, qu'il est assez fantomatique et qui traverse des matchs sans avoir le moindre impact. C'est surtout ça qui est dérangeant quand on connaît son profil. C'est pas juste un numéro 9 comme Sorloth qui est censé te planter des buts. Non, c'est quelqu'un qui est censé quand même avoir la qualité technique et physique dans la vivacité aussi de pouvoir vraiment participer au jeu. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'il ne répond pas aux attentes ces derniers mois. Et ce qui est surtout dérangeant, c'est qu'il y a quelques mois, on se disait, est-ce que l'Atlético est assez grand pour lui? Est-ce que il doit pas aller ailleurs? Maintenant, on se demande, est-ce qu'il a les épaules pour être le leader de l'Atlético et d'être le leader du nouveau projet avec les nouveaux investisseurs aussi. Et le souci, c'est qu'il est un petit peu en train de caler et dans un moment où, pour la première fois peut-être de sa carrière, ou en tout cas en Europe, c'est l'attaquant phare de l'équipe et celui qui est censé porter les autres. Et pour l'instant, il ne répond pas présent dans cet aspect-là. Donc c'est décevant, surtout quand on connaît ses qualités. Et même Diego Simeone est obligé d'avouer que le Julian Alvarez qu'il a aujourd'hui et qu'il avait ces dernières semaines n'est pas le Julian Alvarez qu'il a envie de voir. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a parfois été un petit peu laissé sur le banc, je pense, pour le laisser aussi récupérer peut-être mentalement et revenir un petit peu mieux, parce qu'il va falloir, si l'Atlético veut faire une grosse fin de saison.
Ça va alimenter le discours de beaucoup de ses fans depuis qu'il a signé à l'Atlético. C'est pas le bon club pour toi, c'est pas le bon coach pour toi, Julian Alvarez. Hein. Il n'a marqué que lors de 4 matchs en Liga cette saison.
Ouais, alors après,
4 matchs, c'est fou.
C'est sûr qu'on a plutôt tendance à voir le chemin inverse pour un joueur. C'est-à-dire qu'il passe par l'Atlético et ensuite il va à Manchester City. C'était le cas de Agüero, par exemple. Là, c'est pas le cas pour justement notre ami Alvarez. Pardon. Je pense aussi que, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs aussi de départ, de volonté de départ. On m'a parlé là aussi à ce moment-là du PSG pendant un moment et même d'autres équipes. Et comme le soulignait le Head, hein, c'est quand même la première fois qu'il a peut-être le statut de titulaire, en tout cas dans un club, parce qu'à City c'était souvent un remplaçant, un joueur qui rentrait en fin de match ou alors qui jouait quand les autres étaient blessés. Là, c'est pas le cas et c'est vrai qu'il répond pas forcément présent.
Je pense que c'est peut-être qu'un super remplaçant, René Barrès.
Moi, je te dirais
c'est
plus,
possible.
C'est plus, il y a peut-être un problème, je pense, d'ego là-dedans. Voilà.
Edgar,
mais non, mais c'est comme t'as Batman et Robin et t'as des joueurs c'est des Batman et t'as des joueurs c'est des Robin. Je dis pas que c'est un Robin, mais pour l'instant il a pas montré qu'il peut être Batman. Donc est-ce qu'il a les épaules pour être le super héros d'un club comme l'Atlético? Il va falloir toujours qu'il le prouve. Il a prouvé qu'il peut être un super héros, mais il faut voir dans quelle catégorie il se classe.
Moi, j'avais Tintin et Milou aussi.
Contrat jusqu'en juin 2030 pour ton Milou. Du coup.
Ouais, pour mon Milou. Effectivement, c'est un Milou pour l'instant. Hein. Non, peut-être qu'on l'a surcoté, hein, Ronald Alvarez. On ne sait pas, encore et une fois. Bon, on va arrêter l'expression surcoté, sous-coté. C'est un très bon joueur, pas de problème.
Oui, oui.
Mais peut-il endosser une responsabilité, une pression, être un leader offensif? C'est encore à vérifier, bien sûr. On fait une petite pause rapide ensemble. Et dans un instant, on parle d'une autre recrue hivernale qui fait plaisir. Edgar Grollo, l'oracle du football espagnol, il nous en avait parlé il y a 3 mois. Reste avec nous, la suite du podcast After Espagne. L'After Espagne, la deuxième partie avec Rémi Dumont et Edgar Grollo. On a parlé d'Ademola Lookman, on a parlé également de Julian Alvarez. Il faut parler également d'un autre joueur qui est arrivé cet hiver, Edgar, qui peut aussi, hein, à sa façon, contribuer à changer le visage des Colchoneros. Rodrigo Mendoza, milieu de terrain, arrivé d'Elche cet hiver, 16 millions d'euros hors bonus. Je vous lis ce qu'a dit le président de l'Atlético. Après, il est dans son rôle de président, hein, il faut bien qu'il vende sa recrue. Il dit, c'est l'un des jeunes les plus talentueux du football espagnol. On peut être d'accord là-dessus. Extraordinaire, qualité, habileté, rapidité, polyvalence, vision du jeu et surtout une envie farouche de triompher. C'est Enrique Cerezo qui dit ça, le patron de l'Atlético. Edgar, est-ce qu'il en fait trop ou est-ce que toi, tu rejoins, tu ne changes rien à cette déclaration?
En tout cas, c'est l'un des milieux de terrain qui fait le plus rêver en Espagne quand on parle des très jeunes talents. Et c'est pas rien parce qu'on parle d'un milieu de terrain typiquement espagnol, celui qu'on imagine, le joueur un petit peu comme Pedri. D'ailleurs, même Pedri lui-même a dit « s'il y a bien un joueur avec lequel je devais me comparer dans les jeunes qui arrivent, ce serait Mendoza ». Mais lui aussi, il est un petit peu biaisé parce qu'ils ont les mêmes agents. Mais Mendoza, effectivement, c'est un grand espoir du foot espagnol. Et quand je dis « c'est pas rien de dire ça », parce que justement, c'est le profil typique. Et il y en a des dizaines des joueurs qui ont un petit peu ce profil, des jeunes comme ça en Espagne. Mais lui, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot, je pense déjà, ça se voit dans sa science du jeu, dans ses choix, c'est-à-dire qu'il va toujours choisir la bonne partie du pied pour faire sa passe, la bonne intensité dans sa passe, la bonne accélération, le bon choix de faire une touche de balle en plus ou une touche de balle en moins, parce que des fois, faire une touche de balle en plus, ça simplifie le jeu parce que t'élimines un joueur balle au pied avant de faire ta passe, mais des fois, il faut faire la passe tout de suite. Et bien lui, il a vraiment cette science du jeu, on a l'impression qu'il a parfois les yeux un petit peu dans le dos, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a confirmé les espoirs qui ont été placés en lui au début de la saison. Nous, on en avait parlé dans le podcast quand on parlait des cracks de Liga. Ça, c'était au mois d'octobre.
Tu peux dire jeu, Edgar. Depuis, c'est pas modeste. Hein, tu peux dire jeu.
Mais c'est un travail collectif. On a parlé de plein de joueurs.
Quelle modestie.
Non, mais et surtout, il a progressé depuis ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Il a progressé depuis ce moment-là. Il avait déjà montré pendant la Coupe du Monde U20, donc avec une autre équipe, puisqu'il était avec la sélection espagnole, qu'il pouvait déjà être un joueur très important dans une équipe et un milieu de terrain qui a un impact sur le jeu absolument énorme. Donc ça va être très intéressant de le voir à Atlético. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comme Lookman. C'est un profil, le genre de profil qui manque et qui manquait ces dernières années à l'Atlético. Et même si je pense qu'il va être remplaçant au départ, c'est surtout, je pense, un message passé par les nouveaux actionnaires du club de se dire « Ok, maintenant, on va aussi viser ce genre de joueur et on va peut-être améliorer aussi le jeu qui a été proposé.
Bon, » 16 millions quand même pour Mendoza. Hein, c'est pas
16 millions en bonus.
Ouais, donc c'est pas… Tu vois, c'est,
non, ça va.
Ça va, c'est correct, mais il faut quand même les lâcher.
Bon, en tout cas, on croit en lui. Est-ce qu'il est chez nos manquants qui va permettre de dynamiter le milieu de terrain de l'Atlético, qu'on a besoin, l'Atlético, qui a besoin d'un second souffle, Edgar? Troisième, ça va un peu mieux quand même en championnat, qui n'a pas toujours été troisième depuis le début de la saison, mais largué par rapport au Real et au Barça, à 9 points du Real, à 10 du FC Barcelone, et qui a décidé d'investir cet hiver. On peut faire un petit point justement sur le mercato hivernal. L'Atlético, c'est le club qui a dépensé le plus.
Alors oui, c'est le club qui a dépensé le plus, mais comme le soulignait Edgar sur les réseaux sociaux, parce que je fais de la pub pour ton compte, mon Ed, on regarde en termes de championnat ce qui a été dépensé. Alors là, on voit évidemment les dépenses. Hein. Il y a 54 millions d'euros dépensés par l'Atlético de Madrid cet hiver. Hein. 35 pour Lookman, 16 pour Mendoza, 3 pour Vargas. Il y en a aussi, il y a eu pas mal de ventes. Au total, c'est 77 millions de vendus, avec notamment les 40 de Gallagher, hein, qui a signé, qui est retourné.
Une belle réussite, Gallagher. Ouais.
Comment ?
Une très belle réussite. Hein.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est reparti, du coup. Et on voit que finalement, ces 54 millions d'euros investis, c'est une grande partie qu'ont investi les clubs espagnols durant ce mercato hivernal. Parce que si on dézoome un petit peu et on regarde en Europe et même dans le monde ce qui s'est fait, on voit que c'est évidemment la Première Ligue qui a le plus dépensé cet hiver, avec 453 millions d'euros, suivi de l'Italie et la Serie A avec 243 millions. Ensuite, c'est la Serie A brésilienne pour 201 millions, ce qui correspond aussi au transfert de Paqueta, hein, qui a fait pas mal jaser. On voit que la Ligue 1 est 6e et surtout que la Liga est 8e avec 75 millions d'euros dépensés, donc sur les 54 par l'Atlético, ce qui montre bien l'investissement sur le mercato des madrilènes.
Ouais, c'est spectaculaire. On est habitué, Edgar, à avoir l'Atlético dépensé, hein, sur tous les mercatos désormais, quoi. Envie absolument de réduire l'écart avec les deux devant, quoi.
Ouais, exactement, et aussi bien vendre aussi, hein, parce que là ils ont bien vendu. Hein, après les 6 mois que passe Gallagher, de le vendre comme ça, c'est finalement plutôt bien géré, même s'ils auraient préféré, j'imagine, qu'ils réussissent sportivement dans leur club. Même Raspadori en reprendre 22 millions, bon, c'est pas si terrible. Mais ouais, ils dépensent énormément, ils dépensent plus que le Barça et le Real Madrid en transfert depuis 2 ou 3 saisons. Ils ont envie de serrer ce gap. Et surtout, c'est un message, encore une fois, passé par Apollo, le nouveau propriétaire de l'Atlético. Maintenant, on va, et par Alemany, hein, qui gère ça maintenant. Matteo Alemany, ancien du Barça, qui est arrivé pour gérer le sportif côté Atlético. Ils ont envie de resserrer ce gap. C'est pour ça aussi qu'ils vont développer leur cité des sports pour avoir d'autres revenus et pour avoir vraiment des infrastructures dignes d'un club comme ça. Parce que c'est vrai que si tu compares aujourd'hui les infrastructures de l'Atlético et du Real, le Real a toujours un temps d'avance. Donc, il va falloir maintenant que ça se montre sur le terrain, surtout. Il n'y a que ça. S'ils sont troisième tous les ans, on dira que c'est une déception, même si en termes de budget, ils restent loin du Real et du Barça dans l'idée, ou en tout cas en termes de taille du club.
Et puis, il y a l'envie, effectivement, de repartir sur un nouveau cycle. Hein. On va parler dans un instant d'Diego Simeone, avec ou sans lui, pour le court terme ou le moyen terme. Envie de s'appuyer sur des espoirs espagnols, notamment un gamin qui a été préformé au Real, qui est arrivé ensuite à l'Atlético de Madrid, c'est Pablo Barrios, international espagnol désormais. Edgar, je crois que tu voulais en parler également, lui aussi. Il doit contribuer à redorer le blason des Colchoneros.
Ah oui, entre lui et Mendoza, on change de l'image classique des milieux terrain de l'Atlético et du profil Gallagher qui, quand on a signé, on s'est dit mais c'est le profil typique de l'Atlético. Barrios et Mendoza, on n'est pas dans ce style-là. Barrios, c'est quelqu'un qui vraiment est en train d'éblouir l'Espagne ces derniers mois, qui a le meilleur niveau de sa carrière, qui paraît plus qu'un candidat pour la Coupe du Monde, mais presque comme une évidence, même s'il y a tellement de monde devant que finalement il y a forcément quelques évidences qui vont passer à la trappe et qui iront pas à la Coupe du Monde. C'est un joueur surtout qui a la qualité de se projeter beaucoup, qui apporte beaucoup à ce jeu, qui lui aussi fait les bons choix et surtout qui sait, mais on le disait pour Mendoza, il va pouvoir bien travailler avec Barrios parce que Barrios c'est quelqu'un qui accélère balle au pied, puis qui accélère avec la passe et en tout cas qui a toujours la qualité de faire le bon choix entre les deux et qui apporte vraiment quelque chose de différent à cette équipe, de léger et surtout qui apporte la touche technique qui manque parfois aux équipes de Diego Simeone depuis quelques années. Et il y a vraiment une vraie hype autour de lui, même si malheureusement hier il est sorti blessé, un petit claquage ou en tout cas il se tenait derrière la jambe, blessure musculaire, donc on va voir combien de matchs il rate, mais il y a vraiment quelque chose à jouer pour aller faire la Coupe du Monde pour lui et même avoir un rôle je pense intéressant avec la sélection.
22 ans Pablo Barrios, Rémi.
Et oui, surtout médaillé d'or au dernier JO avec la sélection espagnole, hein, ce qui montre qu'il a aussi de l'expérience, donc un certain vécu potentiellement pour la Coupe du Monde cet été avec la Roja. Donc c'est un joueur intéressant à suivre. Puis on s'amusait aussi à comparer un peu ses statistiques par rapport à d'autres joueurs de son poste en Liga avec Tchouaméni, on les a vus tout à l'heure, et De Jong. On voit qu'il est pas mal, hein, notamment au niveau des interceptions, 23 cette saison en Liga pour lui contre 21 pour De Jong et 16 pour Tchouaméni. Il a le même nombre de tacles gagnés que De Jong par exemple, et au niveau des centres, pour rejoindre ce que disait le Head, c'est-à-dire qu'il sait aussi se projeter, il a vraiment une grosse activité au milieu de terrain, et ben il est de loin le meilleur entre guillemets centreur de ces trois milieux de terrain puisqu'il en a 27 centres contre 4 pour De Jong et 5 pour Tchouaméni. Après évidemment c'est pas les mêmes styles de jeu non plus, mais c'est vrai que c'est un joueur très important pour l'Atlético et à surveiller du coup pour la perspective de la Coupe du Monde.
Ces petits jeunes là qui sont une place au sein de l'équipe première de Diego Simeone, ils sont de moins en moins nombreux, hein, les anciens, les tauliers, hein, des Colchoneros.
Ah bah c'est pareil, on a regardé, hein, en termes de contrat, les joueurs les plus anciens de l'effectif actuel de l'Atlético de Madrid. Il y a bien évidemment Koke qui l'a depuis 2011. Il est arrivé quasiment en même temps que Diego Simeone, il me semble, parce que c'est 2011 aussi, c'est pour le coach. Il y a Jiménez qui est là depuis 2013, Oblak qui est là depuis 2014. Ensuite il y a Llorente 2019. Alors on n'a pas mis Griezmann, hein, parce que Griezmann il a fait deux passages, hein, de 2014 à 2019, puis depuis 2023. Mais voilà, on voit que, on va dire, le plus récent, c'est quand même Simeone avec un contrat en 2022. Hein, c'est le top 5. Et pour en revenir à Griezmann, là aussi, on voit que bah, voilà, il fait partie des meubles puisque c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético avec 209 buts. C'est le quatrième en termes de matchs joués avec 476. Le premier, c'est Koke. Et c'est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, okay, avec 94 passes décisives contre 122 pour Koke, encore une fois, le meilleur passeur.
Quelle légende Koke, hein, formé à Atlético, l'homme d'un club, d'une vie, qui démarre à peine 17 ans avec l'équipe première, avant même l'arrivée de Diego Simeone. Alors justement, Diego Simeone, pas mal de rumeurs, comme chaque année, Edgar. Ruiz en Espagne, c'est quand? Est-ce que c'est la dernière saison? Est-ce que ça y est, on va passer à autre chose? Qu'en est-il? J'ai lu le média Sport en Espagne qui en parlait encore il y a quelques jours. Qu'en est-il de son avenir?
C'est effectivement récurrent, quasiment tous les ans c'est à peu près la même chose, et quasiment tous les ans on va dire que la rumeur est un petit peu plus forte que l'année d'avant et que les supporters en ont un petit peu plus marre. Mais le problème c'est qu'il y a tellement un amour profond entre Simeone et l'Atlético et entre les supporters de l'Atlético et Simeone, que s'il élimine le Barça en demi-finale de Coupe du Roi, tout le monde va être de nouveau à bord du train Simeone, donc c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que notamment chez les supporters de l'Atlético, et cette saison surtout et ces derniers mois, ils en ont un petit peu marre parfois du jeu décevant. Ils en ont marre de faire des 0-0 à l'Évante. Ils en ont marre surtout de voir leur concurrent, ou en tout cas ceux avec qui ils ont envie de concurrencer, gagner des matchs parfois beaucoup plus facilement, là où c'est un petit peu plus rare. C'est un petit peu plus rare du côté de l'Atlético. On a l'impression qu'ils ont souvent, trop souvent, besoin de cravacher contre des équipes inférieures. Et je pense que la frustration et le jeu proposé, il est là, même si ce qui est paradoxal, c'est que je trouve qu'il y a quand même une vraie progression dans le jeu depuis quelques années. Et quand tu vois les matchs, par exemple, comme face au Betis hier, au moment où on enregistre ce podcast, qui a été vraiment un match fabuleux de la part de l'Atlético, de bout en bout, gagné 5-0, tu vois qu'il y a l'intention de faire beaucoup mieux dans le jeu, mais il n'y a pas encore cette régularité d'arriver à le proposer contre tous les adversaires. Ouais. Et parfois, bah oui, quand tu es dans une nuit où il pleut à Getafe, ou que quand tu dois jouer à Levante, ou tu joues une équipe un petit peu moins forte, bah tu as du mal à faire ça face au bloc bas notamment.
Il y a une histoire d'amour, comme le disait Ed, mais il y a aussi une histoire de gros sous, parce que je crois que Diego Simeone est l'un des entraîneurs les mieux payés de Liga, mais voire même d'Europe, je crois.
Je crois que c'est
plus d'un million par mois. Donc,
oui, largement plus même, je crois.
Moi, j'aime beaucoup les gens pour plus d'un million par mois.
T'as raison, il y a plus de 20 millions l'année, je crois, la saison. Hein.
C'est pas mal.
Diego Simeone. Je rappelle à Diego, hein. Bon, de toute façon, il va les qualifier pour la Ligue des Champions, comme d'hab. À la fin, tout le monde sera content.
Match de barrage contre
Bruges. Il va faire peut-être un huitième de finale s'il passe le club Bruges, et ça ira à beaucoup de supporter des Colchoneros. C'est terminé pour cette semaine, les amis. Merci Rémi.
C'est passé très vite.
Merci Edgar. Merci à la CPE, hein, Samantha Zweck.
Bien sûr.
Fabien Zolkowski. Merci à Jalel.
Voilà, bien
notre
sûr.
Notre ami Jalel, qui nous a accompagnés également dans la préparation de cet épisode. Et merci à vous de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'After Espagne. Bye bye.
RMC After Espagne.